1570 AM Laval.
CJLV 1570 Laval vous présente la seule émission francophone en Amérique du Nord consacrée à la lutte professionnelle. TOW Radio Show. Présentation de Pink Paradise et Oasis Technology. Voici votre animateur, l'arbitre de cette émission, Patrice Maltais.
Oh yeah, bonsoir à tous, bienvenue à cette 13e édition du TOW Radio Show. Patrice Maltais qui vous souhaite la bienvenue au 1570 AM. Également, tous ceux et celles qui nous écoutent via le web, la toile international, à l'exception de la Chine. On parle bien sûr du www.1570.ca. J'ai fait un genre d'introduction suspense parce que c'est le chiffre numéro 13. Et puis Patricia, bien souvent, le numéro 13, on...
Numéro 13.
C'est malchanceux.
C'est malchanceux. Ouais.
Donc, j'ai prédit que ça allait être le plus pire show de l'année.
Vu
que c'était le numéro 13. Penses-tu que j'ai raison?
Ben, je penserais pas, parce qu'on a un invité spécial à soir.
Un invité avec des S, je dirais, ce soir.
Invité avec des S.
Je souhaite la bienvenue à Jimmy Gavroche, notre invité de France. Salut, Jimmy.
Salut, Patrice.
Sagaz.
Sagaz à fond. Numéro 13, tu sais que je suis né un vendredi 13, même.
Ah ouais, c'est-tu encore ta fête, le 13?
Ouais.
Ouais, c'est bon, bienvenue au TOW Radio Show.
Merci.
Jimmy, je suis super content de te voir. On va parler tout à l'heure avec toi, ta carrière, qu'est-ce que le catch en France vu de des yeux de Français. Donc, t'es ici pour 3 semaines, mais pas en studio, mais seulement au Canada. Donc, on s'en parle tantôt, Jimmy. Je veux souhaiter la bienvenue également à Pat Laprade. Salut, Pat.
Salut, Patrice.
Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu.
Écoute, ma première présence en 2012. Moi, je suis né le 31, donc l'inverse de 13. Et je me dis qu'au pire, tout ce qui pourrait arriver de malheureux, vu que c'est le numéro 13, c'est d'être échangé à Calgary.
Oh, c'est bon, ça. C'est très, très bon, Pat. Super intéressant comme introduction. Ça fait que tu me parles de hockey. On fait un show de lutte, mais toi, tu me parles de hockey.
Ah, écoute,
je suis multisportif. C'est bon. Patricia qui disait que, justement, nous allions avoir un invité spécial, Pat Patterson, qui est l'inventeur du Royal Rumble, sera en entrevue avec nous vers 22h. Donc, ça sera pour la deuxième heure du TOW Radio Show. Plusieurs questions ont été posées via la page officielle Facebook du TOW Radio. Et puis, Patrick, qui est notre historien québécois, bien sûr, a préparé sa feuille. T'aurais pu écrire plus petit, par exemple.
Ben écoute, au moins, je l'écris à l'ordinateur pour que tu comprennes mon écriture que tu comprends pas habituellement. Puis écoute, Pat Patterson, c'est non seulement l'inventeur du Royal Rumble, mais c'est aussi l'un des meilleurs scripteurs, bookers de tous les temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour cet homme-là qui avec la WWF, était le bras droit de Vince McMahon pendant des années. Et le succès de la promotion aurait pas été le même sans l'apport de ce Québécois, Pat Patterson.
Sylvain Grenier sera là vers 22h. J'attends confirmation de Marc Blondin. Il devait me retexter, mais il n'est pas encore arrivé. Il doit être en chemin, j'imagine. Bref, on parle également avec qui aujourd'hui? Smondax, c'est ça? Smondax, qui va nous parler du prochain gala de la GEW qui aura lieu, soit dit en passant, ce samedi. On devait avoir Drenuc concernant la NCW qui a présenté sa season premiere numéro 2 ce week-end avec la venue de DX. Malheureusement, Drenuc avait un empêchement de dernière minute, mais on en parlera tout à l'heure, Pat, toi et moi, vu qu'on était tous les deux présents.
Absolument.
Moi, à titre d'arbitre, et Laprade à titre de Mark. Ça, il fallait que je la lâche, celle-là.
À titre d'ex-actionnaire de la NCW.
Ah, ça, je ne savais pas, là, mais je parlais plutôt à titre de spectateur. T'as-tu payé ton billet samedi? C'est ça que je veux savoir.
Absolument. J'ai contribué à la lutte québécoise parce que, écoute, quand tu fais venir des gars comme D-Generation X avec Billy Gunn et X-Pac, ça coûte des sous et faut à un moment donné aussi encourager le territoire et faire en sorte que les revenus se créent pour en faire venir d'autres vedettes.
Tu sais, Patricia, il y a un gars qui gueule tout le temps là, dans les galas de lutte. Là, il s'appelle Mike, là, c'est un anglais. Là.
Ah, oh, j'étais pas capable.
Non, justement, attends.
Ouais, ouais. Ouais.
Ben, il était là au show, là, il disait NCW sucks, puis il criait, là, mon Pat, là, il a lâché un bon, shut the fuck up, please. Là, je me disais, si la Prade, il a pas payé son billet, il a pas le droit de chialer pour un spectateur qui a payé son 25$.
Mais c'est ça qui est bon dans les shows de lutte. Quand on va voir un show de lutte, c'est le fun de voir les... d'avoir les deux, trois qui vont...
Ouais, mais lui il en était, vraiment harcelant de appeler Billy Gunn, là. Je pense que s'il aurait pu lui faire un tag, il l'aurait fait, là.
T'as pas vu des shows de la CRW,
j'en ai vu quelques-uns.
Le premier temps que lui était présent, puis dans les 13 spectateurs, on entendait juste ce gars-là.
Ouais, non, il est quelque chose de spécial, je pense qu'on a assez parlé de lui.
Jimmy qui a fait justement une apparition et qui s'est battu contre Jay Phenomenon, on va en parler tout à l'heure également. Je vais vous couper le micro, les amis, pour le bulletin d'information concernant le fabuleux monde de la lutte professionnelle. Eh bien, on dirait que c'est avec stupéfaction, mais en même temps, dans la catégorie de « Pourquoi t'as pas compris la première fois? » On parle bien sûr de Evan Bourne, parce que conformément à son programme anti-drogue, la WWE, qui a suspendu pour 60 jours Matthew Corkland, alias Evan Bourne. Vos micros sont ouverts, si vous voulez m'interrompre, les amis. Ce dernier en a sa deuxième violation en moins de 3 mois. La première infraction de Bourne remonte au mois de novembre dernier. Et puis, la prochaine offense résultera à une résiliation du contrat de Bourne qui fume du pot synthétique. Donc, tant qu'elle t'a gelé, au moins, jette du vrai pot, que ça vaille la peine. Mais on sait pas vraiment c'est quoi la substance qu'il a consommée. Il y a R2 qui avait été suspendu pas longtemps après pour avoir fait les mêmes niaiseries que Bourne.
Ensemble en plus.
Et puis Bourne qui l'avait stoolé. Et puis, bref.
Alors, si la tendance se maintient, on va découvrir bientôt que R2 va être suspendu également.
C'est ça. Puis Bourne s'est excusé à ses fans. Et puis, j'ai fait le saut. Je me dis, hein, quoi? Bourne qui a des fans? Ça, je ne savais pas. Selon les rumeurs, Shawn Michaels et Triple H seraient les présentateurs des Four Horsemen lors de leur intronisation au temple de la renommée de la WWE. Arn Anderson, Barry Windham, Tully Blanchard, Ric Flair et J.J. Dillon ont été annoncés, tout comme Edge, qui seront admis à la classe de 2012. Et puis le vice-président exécutif des talents, Triple H, a fait beaucoup de lobbying pour que les Horsemen soient introduits au temple de la renommée.
Il y a aussi Mil Mascaras qui a été annoncé quand la WWE a fait ses Royce Maidan au Mexique plus tôt, donc ça va être annoncé aux États-Unis sous peu.
Il sera intronisé d'ailleurs par Alberto Del Rio. Je pense que c'est son oncle, quelque chose du genre. Selon toute vraisemblance, bien Christian serait de retour pour le Royal Rumble dû à une blessure à une cheville. Bien Christian est sur le carreau depuis le 9 novembre. Les résultats des codes d'écoute de l'émission de Raw du 16 janvier ne seront connus que mercredi en raison du congé férié de lundi aux États-Unis qui était l'anniversaire de Martin Luther King. Le site internet ImpactWrestling.com a retiré les profils de Jackie Moore, Jesse Neal ainsi que Toxin de leur site de la section lutteurs. Ceci vient évidemment confirmer leur départ respectif de la fédération à la fin de l'année 2011. Neal qui a fait sa dernière apparition à l'émission Impact Wrestling du 15 décembre après avoir reçu un DDT par Gunner et conséquemment emporté sur une civière. Mais la vraie raison que Neil a mis faire son contrat avec l'organisation, c'est que les officiels lui ont demandé de se relocaliser de la Floride à Louisville, au Kentucky, là où justement est basé la Ohio Valley Wrestling. Il a refusé à la suite d'une dispute monétaire en disant que l'argent offert était carrément humiliant, puis c'était aussi le seuil de la pauvreté. Quant à Toxin, pardon, qui est la copine dans la vraie vie de Neil, elle n'avait pas aucun contrat qui la liait à la TNA. Et son départ n'était qu'une formalité à la suite de la fin du contrat de Neil. La raison pour laquelle on ne voit plus du tout M. Anderson à la télé est que l'équipe d'écriture n'a absolument rien pour lui, ce qui est assez dommage, également surprenant.
Ce qui est représentatif aussi
de
l'équipe d'écriture de TNA. Ouais.
C'est qui l'équipe d'écriture? Je pense que c'est seulement Vince Russo qui écrit quand il va aux toilettes. Bref, la dernière apparition de M. Anderson à la télé remonte au 17 novembre lors de l'émission Impact, que vous allez d'ailleurs voir, je pense, la semaine prochaine à RDS avec le retour, mais je veux dire le grand retard concernant les émissions à
RDS.
Si je peux me permettre, Patrice, Toxine, que tu parlais dans tes nouvelles, de son nom de lutteuse indie, Christina Van Ery, est vraiment un talent que la WWE devrait regarder avec attention. Un look bien particulier, un look peut-être punk, mais qui justement ferait différent, puis c'est loin d'être une laide demoiselle, bien au contraire, très jolie, qui fit avec les standards, je crois, de la WWE, et qui aurait tout avantage là, à être recrutée par eux maintenant qu'elle n'est plus avec la TNA. Je l'avais vue à Shimmer au mois d'octobre 2010, et vraiment, vraiment beaucoup de talent.
Excellent. Patricia, qu'est-ce qui se passe du côté de notre page TOW Radio Show?
Ben, en fait, je vous dirais, c'est un petit peu tranquille, là, parce qu'on n'a pas encore rentré dans les sujets. J'ai Serge Coutu qui dit qu'il n'entend pas trop parler M. Laprade dire sa fierté du frais champion. Il va vouloir parler de
Handsome GF. Handsome GF qui a remporté de la ceinture en fin de semaine. Ça va être tantôt, Serge. Sois pas inquiet.
Puis après ça, on a reçu beaucoup de messages aujourd'hui sur des questions pour Pat Patterson qu'on va pouvoir lui poser à 10h quand on va l'avoir en entrevue.
Excellent. Donc, notre première chronique de la soirée. On reconnaît bien sûr la chanson thème de Rock. Vu qu'elle est pas longue, on va laisser jouer.
C'est souvent la meilleure partie de Rock.
C'est ça.
C'est toujours la partie que je regarde d'ailleurs.
On va faire un petit résumé de l'émission d'hier. La semaine passée, Sylvain est arrivé avec un scoop comme quoi que la WWE était à la recherche d'anciens talents concernant l'ère Attitude. Et puis en voyant Mick Foley arriver au show hier, je me suis dit non, je penserais pas qu'il s'annonce comme étant un des participants du Royal Rumble. Et puis, je trouve que le premier quart d'heure de l'émission était quand même assez intéressant avec Mick Foley. On a eu également Dolph Ziggler, on a eu CM Punk. Donc, tes impressions du premier quart d'heure?
Ben écoute, ça a été, je pense, un bon segment d'ouverture. Mm-hmm. Mick Foley, tu vois que, encore une fois, des gars comme lui, comme The Rock, sont vraiment une coche au-dessus de tellement de talents de la WWE présentement lorsqu'il vient le temps de faire une promo et d'amener une histoire du point A au point B. C'est vraiment là, frappant. Dolph Ziggler est, bon, un lutteur que mon cousin me détesterait si je disais que je l'aimais depuis le début parce que lui en était un gros fan, mais pas moi. Par contre, j'ai appris à l'apprécier avec les années. Il s'en vient bien. Je pense qu'il y a un bon potentiel. Je pense pas au point de battre CM Punk au Royal Rumble pour le titre. Ceci dit, si c'est une bonne logique, ça veut dire qu'ils vont sûrement faire le contraire, mais bref. Oui, un bon segment d'ouverture avec Mick Foley. C'était rafraîchissant. C'est ironique de dire ça d'un gars qui était là il y a 15 ans, mais bref, non, ça a été un des deux bons segments qu'il y a eu dans le show.
Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est l'état physique de Mick Foley. Il me faisait penser à une bouteille d'orange Jitra. Il était mince en haut et assez large en bas, et puis je sais pas si j'ai bien compris, il est rendu à 4 enfants maintenant, Mick Foley.
J'ai pas porté attention.
Parce qu'il parlait que c'est sa dernière apparition au Royal Rumble, je pense qu'il avait gagné, puis ses enfants étaient présents avec sa femme, qui était d'ailleurs qui brûlait les yeux. C'était une belle femme, et puis ses enfants avaient vraiment été traumatisés de la façon dont le père avait perdu la ceinture face à The Rock, qu'on avait vu d'ailleurs à Beyond the Mat, je pense, le documentaire. Puis c'est intéressant, puis passé les matchs, on arrive à la fin, et puis je sais jamais comment vous dire son nom.
John Laurinaitis.
C'est ça, qui a pété sa coche. Donc, ça va être à suivre concernant cet angle-là.
Ouais, mais d'ailleurs, je crois que la WWE essaye de refaire ce qu'ils ont fait l'an dernier au Rumble avec le retour de Kevin Nash, le retour de Booker T. Moi, j'étais là live à ce Rumble-là à Boston, et le pop que ces deux gars-là ont eu lorsqu'ils se sont présentés, surtout Nash, écoute, c'était vraiment, même Booker T, c'était vraiment quelque chose. Alors, je pense que la WWE essaye vraiment de de trouver d'autres lutteurs qui vont justement faire des retours surprises pour essayer d'aller chercher cet élément-là là, durant le Rumble. Parce qu'un Rumble, je veux dire, ça reste une bataille royale. Oui, il y a quelques spots intéressants, mais à un moment donné, des fois, ça peut tirer un peu en longueur. Fait qu'en ayant des retours surprises comme ça, ça tient la foule un peu plus, peut-être pas en haleine, mais au moins, ça, sont excités, sont contents des lutteurs qui se présentent et ça diminue l'effet longueur des fois que le Rumble peut avoir.
Ensuite, John Cena qui a carrément matraqué le nouveau champion des États-Unis qui en était à son deuxième combat de la soirée. Jack Swagger, que j'ai toujours apprécié, que j'adore, que je qualifiais le nouveau Kurt Angle, mais il est vraiment complet. Est-ce que Kane a réussi à jouer dans la tête de John Cena, Rise Above Eight? Est-ce qu'on va s'attendre à voir un John Cena en heel pour WrestleMania?
Non, je crois pas. Tu disais justement la semaine dernière là, comment John Cena générait des
106 millions de
des revenus présentement, et je pense pas que la WWE est en mesure de se passer de ça et n'a pas non plus le si la WWE avait monté un talent qui pouvait justement prendre la place de Cena pour donner à Cena une run de heel, peut-être, mais présentement même CM Punk n'a pas cette stature-là avec la compagnie. Zack Ryder non plus. Il n'y a pas un autre présentement, un autre babyface qui peut donner les chiffres que John Cena donne présentement à la WWE depuis plusieurs années déjà. Alors, je crois que on est confiné à avoir un Cena babyface qui se fait huer par les adultes, hommes qui se fait applaudir par les femmes et les enfants. Je pense que il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, un peu comme dans le temps avec Bret Hart qui se faisait huer aux États-Unis, mais qui est un héros au Canada. Donc, je crois qu'il y a quelque chose à faire avec ça maintenant j'ai utilisé un terme anglophone là, qui le hot knowledge un peu plus, il en parle durant les segments, il en parle à Raw, les commentateurs en parlent. Donc maintenant que c'est un fait connu, ben je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça.
Donc ça résume assez bien l'émission de Raw d'hier, sans passer à travers tous les matchs qui s'est déroulé.
Il y a eu une bonne intro, une bonne finition, puis des matchs qui ont été, bon, peut-être pas décevants, mais Jack Swagger, là, qui bat Zack Ryder pour la ceinture, celle-là, faudrait que quelqu'un me l'explique.
T'étais déçu?
Ben, déçu parce que je trouve qu'ils ont pas donné à Ryder le règne de champion US qu'il aurait mérité, puis Jack Swagger, ben, je sais pas, quelque part, je trouve que ça sortait un petit peu de nulle part. Zack Ryder est en grosse rivalité pendant qu'on entend Mick Foley rentrer avec son auto.
Reste d'ailleurs, on veut pas te voir.
Zack Ryder qui est présentement dans une semi-rivalité avec Kane, en amitié quelque avec John Cena, et là Jack Swagger, celui qui lui ravit la ceinture, puis je sais pas trop où ça s'en va, puis habituellement quand je me pose cette question là c'est jamais bon signe.
Je voulais arriver à ça justement. Le retour de Chris Jericho, qu'on peut pas passer sous silence, évidemment, hein, pour la troisième semaine consécutive. Jericho qui fait un gars heureux de retrouver son public de lutte, sourire. Hier, quand j'ai vu qu'il était mêlé au six-man tag match de la fin d'émission, après avoir su qu'il faisait les house shows, je me suis dit, bon, ben on sait tout de suite qu'il est en babyface, mais non, il a tourné le dos à son équipe. Est-ce qu'ils utilisent bien l'angle de Chris Jericho? Est-ce qu'ils étirent la sauce? Est-ce qu'ils étirent assez bien pour se rendre jusqu'au Rumble pour voir c'est quoi vraiment ses vraies intentions?
Mais écoute, après la première émission, je savais pas trop quoi en penser. Et après la deuxième, je me suis dit, bon, OK, ils répètent la même chose. Peut-être que ça pourrait marcher, mais j'avais tellement peur qu'il arrête au bout de deux ou trois Raw ou SmackDown ou bon, quoi que ce soit, House Show. Et écoute, peut-être que pour une fois, ils ont quelque chose, ils ont un angle intéressant entre les mains qui laisseront pas tomber à première occasion. Le fait qu'ils aient pas encore fait une promo, oui, je trouve ça intéressant parce que Et c'était ma peur au début, justement, qu'après la première émission, qu'ils le fassent parler. Et là, c'est pas encore le cas. Donc, oui, je crois qu'ils font encore étirer la sauce avec ça. Je sais pas où exactement ils s'en vont, nécessairement à un heel turn de Jericho. Ça, c'est clair. Mais contre qui? Est-ce que ça va être Punk? Est-ce que ça va être Daniel Bryan? Je ne sais pas, mais nécessairement, je trouve que c'est pour l'instant bien monté. Daniel Bryan contre Chris Jericho serait probablement parmi les dream match que tous les fans de lutte indie aux États-Unis, au Canada auraient rêvé voir.
Peut-être... Pourquoi pas CM Punk?
Ah, CM Punk aussi, mais
non, parce
choisir...
que tu parles de dream match, pourquoi pas CM Punk?
Ben les deux seraient des dream match. Je crois juste que Daniel Bryan est considéré comme le meilleur lutteur technique depuis plusieurs années maintenant, et Chris Jericho est quand même un excellent lutteur également, qui a été MVP de la WWE dans sa dernière run avec eux, et je crois que ce match là, il y a plusieurs fans, plusieurs hardcore fans comme on les appelle, qui seraient vraiment très 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 intéressés de voir ce match là. Je sais vraiment pas qui s'en vont, mais là, ça s'en vient intéressant. Le fait qu'il parle pas ni dans les house shows non plus. On lui a coupé la parole, il est venu pour parler, on a coupé son micro. Je trouve ça intéressant parce que c'est rare les angles comme ça qu'on continue même dans les shows non télévisés. Et puis, ce que j'ai trouvé un petit peu moins... qui avait un peu moins de sens, c'est que le troisième membre du côté des Hills, qui était David Otunga, est celui qui a laissé rentrer Jericho dans le bureau de Laurie Anatis. Puis Otunga, je voyais plus ou moins, je comprends que c'est le bras droit du vice-président talent, comme il nous l'a fait savoir hier, mais en même temps, je sais pas, je trouve qu'il y avait pas sa place dans un main event de Raw. Mais non, Jericho, au début j'étais réticent, là il commence à me rallier à l'angle. J'imagine que juste parce que j'ai dit ça, la semaine prochaine il va parler.
Justement. Mais j'ai bien aimé le fait qu'ils ont fait rentrer Jericho avant CM Punk, parce que bien souvent, moi ce que j'aime pas, c'est qu'on fait rentrer le champion avant la grosse star. Puis moi je trouve que c'est un manque de respect envers le champion, mais bon, le monde de la lutte, c'est un monde de fantasy,
de fantasy avec certaines règles qu'il ne faut pas déroger quand même si tu espères avoir du succès.
Ben, comme je te disais la dernière fois, je pense qu'on est rendu trop vieux pour regarder de la lutte comme on aimait ça. Faut s'arrêter pour une première pause publicitaire. Vous écoutez le TOW Radio Show au 1570 AM dans la grande région métropolitaine, également le nord de Laval. Bien sûr, à vous, chers Lavallois et Lavalloises. Et puis également, internationalement, au 1570.ca.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
L'épilation définitive à la lumière pulsée de Palomar d'Oasis Technologie vous permet enfin de dire adieu aux poils. Chez Oasis Technologie, une variété d'options s'offre à vous, hommes ou femmes. Tout type de poils, tout type de peau et sur toutes les régions du corps, utilisez l'épilation à la lumière pulsée de façon sécuritaire et sans douleur. Informez-vous sur nos spéciaux d'après-fête et vous pourriez recevoir votre premier traitement des aisselles gratuitement. Oasis Technologie, c'est plus de 50 points de service au Québec. 1-877-EPILATION, 1-877-374-5284. Ou visitez finislespoils.ca.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concept unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Hello, this is Earl Hebner. You damn right I did. I'm the best there is, the best I was, and the best there ever be. And you listen to the TOW radio show.
Are you ready? Hey, think you can tell us what to do? You think you could tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Break it down!
Côté musical, ça a toujours été la chanson, leur meilleure chanson, je pense. Ils n'ont jamais réussi à égaler ça. D-Generation X, qui était à la NCW samedi dernier, lors de l'événement Season Premiere numéro 2. Première constatation, lorsque les gars sont arrivés, je me suis dit, ouais, X-Pac l'a eu difficile au cours des dernières années. C'était assez difficile, mon téléphone qui sonne en direct.
Écoute, c'est un moment magique. C'est peut-être Anson GF qui se trompe de numéro de téléphone.
Non, c'est pas ça. Il connaît le numéro s'il veut nous téléphoner. Première constatation, beaucoup de monde, très long gala, beaucoup de matchs. Je peux pas passer sous silence l'excellente performance des mâles qui s'appellent maintenant la tabarne bip de team. Je parle bien sûr de Mathieu Saint-Jacques et bien sûr Thomas Depeyves Dubois avec leur gérant Joey Soprano qui a volé le show pendant 30 secondes. Qui a vraiment fait un salto arrière involontaire.
Pour les amateurs, les fans de Femme Fatale, il a fait un Karen Brooks de lui-même, alors que Karen Brooks avait fait sensiblement la même chose, c'est-à-dire tomber en bas du stage. Cependant, Joey, lui, a amené le décor avec lui.
Ça, c'est vrai, ça. Je me suis dit, ça y est, le kayfabe est cassé à vie. On n'aura plus jamais la même vision de lutte, mais non. Joey Soprano, qui a pas été blessé, soit dit en passant, qui est revenu à la vitesse de l'éclair sur la scène.
Ça aurait pas pu casser le kayfabe parce que tous les lutteurs étaient sortis pour sortis du backstage pour voir le match justement entre les mâles et D-Generation X.
Malheureusement, Drenuk n'est pas là pour nous faire le résumé complet de l'émission, mais quand même, on passe pas sous silence la venue de X-Pac, et Badass Billy Gunn, qui font partie de la deuxième génération de D-Generation X, évidemment, qui était fondée par Shawn Michaels et Triple H avec Ravishing Rick Rude également, China. Toi, Pat, est-ce que t'as été déçu de la performance des deux?
Aucunement.
Des deux oldies, comme on pourrait les appeler maintenant?
Moi, mon premier commentaire après le combat, ça a été de dire qu'ils avaient... Ils n'étaient pas venus à Montréal chercher un chèque de paye. Ils étaient venus travailler. Je veux dire, Billy Gunn était tout simplement en feu. Il avait de l'énergie à revendre, il travaillait sa foule, souriant, let's go, il tapait sur le coin pendant qu'X-Pac avait la heat dans le ring. Écoute, il a été vraiment une bonne prestation, big boot, famousher. On a vu comment Billy Gunn est gros par contre, et comment Thomas Dubois par exemple, qui j'écoutais justement l'émission de la semaine dernière, disait que c'était un des plus gros au Québec. Là, bon, c'est sûr, il y a les Darko et compagnie, mais bon, il fait quand même partie, il fait partie du top tiers. Et Billy Gunn était tout simplement un monstre à côté de lui. C'était vraiment impressionnant à voir. X-Pac aussi, qui malgré quelques problèmes de respiration à la toute fin, a quand même livré une très bonne performance. Écoute, il a fait un plan de chat à l'extérieur sur les deux mâles. Je veux dire, il a été... ce que j'ai remarqué aussi, ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'un ring 16x16, c'est petit pour des gars comme Billy Gunn, comme X-Pac, qui ont lutté dans un ring 20x20 toute leur carrière. On voyait que le timing des fois, X-Pac, c'est wrong kick arrivait, là, puis il était vraiment sur le lutteur, temps normal, il y aurait eu un petit buffer, là. Il y aurait eu un pied de plus,
un
peut-être.
Pied de plus. Ben, quatre pieds de plus, étant donné que c'est un 16-16 et puis 20-20.
Exactement.
C'est pas la même affaire.
Et vraiment, mais non, j'ai été vraiment, vraiment content de la performance qu'ils ont donnée. Content aussi des deux Québécois, Thomas Dubois, Mathieu Saint-Jacques, qui en étaient à un premier duel face à deux gros noms, comme ça. Ils ont bien performé. Écoute, ils ont travaillé peut-être un petit peu trop rapidement. C'est le petit reproche là qu'on fait souvent à plusieurs lutteurs, je dirais, surtout qu'il devait avoir une nervosité qui s'est installée là-dedans. Mais je pense qu'en bout de ligne, ça n'a aucunement paru vraiment pour le fan, et c'était vraiment une belle performance des cinq personnes qui étaient. Et j'ai trouvé aussi X-Pac et Billy Gunn très généreux de leur temps. C'est sûr, les photos après dans le ring étaient payantes, ça c'est correct, mais aussi après le gala, plusieurs personnes qui allaient prendre des photos demandaient des autographes, des boys en arrière. Moi-même, j'ai demandé, j'ai pris une photo avec
Billy Gunn. Moi aussi, j'ai ma photo.
Ne serait-ce que pour immortaliser le souvenir. Je veux dire, au match des étoiles, les joueurs se prennent en photo, se demandent des autographes. Il y en a qui aiment garder des souvenirs de ce genre. Et Billy Gunn a dû passer 20 minutes à s'asseoir, se lever. On dirait que personne n'était arrivé en même temps. Tout le monde arrivait avec un délai de 5 secondes. Donc, il avait à peine le temps de se relever, s'asseoir. Il a passé 5 minutes à même régler les réglages de l'appareil photo de quelqu'un pour qui l'appareil marchait pas. Il a été d'une générosité vraiment immense, et ça, j'apprécie ça quand des fois il y a des lutteurs indie de TNA, de Ring of Honor, qui ont pas nécessairement la même attitude.
Non, David Richard, moi, m'a vraiment déplu quand je l'ai vu, puis je me disais, pourquoi qu'il se prend, ce gars-là? Personne ne te connaît à part Pat Laprade.
il y a plus que moi quand même, mais bon,
façon de parler,
tout ça pour dire que j'étais vraiment content de voir ces deux professionnels là. Et ça l'a donné un match comme je m'attendais. Et où surtout que X-Pac a amené aussi un peu plus de lutte que si ça avait été Road Dogg, qui était le partenaire initial, évidemment.
Ben moi, je me suis dit, X-Pac, il vient, c'est le jobber de l'équipe, en voulant dire, c'est lui qui mange de la volée pendant le heat spot. Et puis après on a eu un regain d'énergie. Puis ça a été un rapide combat, mais je me suis dit, rapide combat, mais longue introduction. A, B, C, D, E, F, G, comme Sylvain il dit souvent, et puis ça fait lever le toit, puis félicitations à l'organisation de la NCW.
Ça a été une courte finale, mais une finale efficace, et j'aurais aimé voir moins de matchs, mais plus de matchs, plus court, plus intense durant le gala, parce que comme tu l'as dit au début, 3h30 de gala, quand tu fais venir Billy Gunn et X-Pac, les cinq premiers matchs avaient des run-in à la fin des matchs, ça a été un show booké pour faire des storylines, et si j'ai un reproche à faire, c'est celui-là, parce que quand tu fais venir X-Pac et Billy Gunn, tu t'attends à avoir de la nouvelle clientèle, et cette nouvelle clientèle-là, faut pas que tu la draines trop avec un show de storyline qu'ils comprendront pas, c'est un show trop long qui vont s'attendre à voir à chaque fois. Donc, ça va les mettre peut-être sur les freins pour revenir. Et tu fais vraiment le principe est simple. 7 matchs, 2h30 de show, un gros angle pour faire venir le monde et ta finale comme elle était là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux?
Parce que bien souvent, lorsqu'on regarde les événements pay-per-view de la WWE, il n'y a jamais de mic work.
Oh, il y en a de plus en plus. Souvent, j'ai vu des pay-per-views, je me disais, crème, on dirait un rough 3 heures.
Il y a des segments backstage, oui, avec des pubs, mais je veux dire, rarement, on va avoir du micro, soit avant un match ou après le ring. C'est ça que je veux dire. Donc, moi, le seul reproche que j'ai eu, c'était du côté technique. Écoute, j'admire Jean-François Kelly du plus haut. C'est ma légendaire légende. Je l'apprécie. Mais j'ai pas compris pourquoi que la sonorité était aussi accablante que ça lors de événement, c'est-à-dire que ça me cassait les oreilles, et puis je sais pas si c'est la faute à l'annonceur ou à la technique, mais ce que je reproche bien souvent, c'est de pas faire des sound checks avant, à pleine capacité, avant l'émission. Moi, c'est juste le reproche que j'ai à faire, mais mis à part ça, j'ai pas vu vraiment de gros défauts. De toute façon, j'étais pas vraiment, je regardais pas les matchs, je préparais les matchs avec ceux que j'arbitrais, et puis Je te dirais que plusieurs personnes devraient se réchauffer un petit peu avant aussi également. Parce que j'aime pas ça faire rire de moi parce que je fais 40 squats avant un combat.
À noter aussi, Patrice, excuse-moi, la victoire de Handsome GF qui a reconquis son titre québécois de la NCW dans un match à triple menace avec l'ancien champion Frank Blues.
Frank Blues qui a été éliminé en premier.
En premier et Pat Gennett. Écoute, un match qui a bien passé. Par contre, mettre ton match de championnat dans la première partie du show avant l'intermission, ça, il y a aussi des explications que j'aurais besoin d'avoir parce que il me semble que le titre principal d'une promotion, c'est ça veut dire que ton lutteur est le plus important, ton champion est important et le mettre en première partie.
La NCW fait de la WWE maintenant, on se gratte la tête. Ah ouais, pourquoi c'est comme ça? Mais bon, seuls ceux qui bookent les shows le savent et puis on brisera pas l'enchantement de la lutte. Comme on a dit, t'avais 3 matchs de trop. Lors de l'événement, 3h30. Toi, t'as calculé 3h30?
Ça finit à 11h, à peu près.
11h, ben, c'est 3h en tout. Bref, bon show, beaucoup de monde, très plaisant. Donc, Patricia, qu'est-ce qui se passe du côté de Facebook? Parce que là, on a une belle question d'un auditeur.
Je vais juste, avant, j'ai Johnny Lamagouille qui nous dit qu'effectivement, il y a souvent trop de gars qui s'étirent pas ou trop peu avant un combat. Donc, il est d'accord avec vous autres. Puis on a Christophe Colin Dalphon qui nous demande « Jimmy Gavroche, s'es-tu endormi ou quoi? »
Non, je suis toujours là. je suis toujours là. Non, je laissais un petit peu parler. Moi aussi, j'étais sur ce show. C'était la première fois que j'allais à NCW. Honnêtement, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir une grosse fédération québécoise. J'ai beaucoup aimé le décorum. J'ai beaucoup aimé le côté professionnel. Ils sont très, 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 très pros là-bas. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais, Patrice. C'est vrai, j'ai regretté un petit peu de voir les gars qui se préparent pas trop, qui s'échauffent pas trop. C'est vrai que ça, on aime bien voir en backstage. Ça donne tout de suite une ambiance de pêche. C'est vrai que c'était un petit peu dommage. J'ai été vraiment très, très, très ravi de la performance de DX. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Tu sais, en Europe, c'est très, très rare qu'on ait des anciens lutteurs de la WWE qui viennent nous voir. J'en ai pas vu beaucoup dans ma carrière, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, et vraiment de voir l'intensité qu'ils sont capables de dégager sur un ring, mais avec des petites choses, simplement en levant le doigt, simplement en une prise, simplement par leur présence, et même par leur performance. Je m'attendais pas du tout à une performance aussi exceptionnelle de leur part, parce que c'est des anciens, ils viennent faire un show qui est pas télévisé, qui est pas WWE. C'est vrai, on peut s'attendre à des mecs qui viennent, comme tu dis, juste chercher un chèque. Et non, là, ils sont vraiment, vraiment venus pour leur plaisir. Et ça, j'ai aimé.
Ben, justement, on parle de ta carrière, Jimmy. Je veux savoir, tu viens de France. T'habites où, au juste?
À Paris.
T'habites vraiment à Paris, la capitale de France?
J'habite vraiment à Paris.
T'habites dans la Tour Eiffel?
Pas dans la Tour Eiffel. J'emporte toujours un petit bout avec moi accroché à mon oreille. Mais j'habite pas loin de la Tour Eiffel.
Donc, Jimmy, tu parles de carrière, c'est parce que t'as pas 40 ans, toi, là, t'as quand même 25 ans, tu fais...
25, ouais.
Tu fais de la lutte ou du catch? Démystifie-nous immédiatement le terme catch et lutte.
Écoute, tout simplement, c'est que en québécois, le vrai nom anglais, c'est wrestling, pro-wrestling.
Wrestling.
En québécois, vous appelez ça de la lutte. Mm-hmm. En France, on appelle ça du catch, mais c'est le mot qui change, quoi. Si. Dans l'absolu, c'est exactement la même chose.
Y a-tu une raison pourquoi on appelle ça le catch?
Ben oui, parce que le catch en fait est un terme anglophone qui veut dire
attraper. Bon,
d'attraper. Et il y avait un vieux style de lutte au début, au tournant du 20e siècle, à la fin des années 1800, début 1900, qui s'appelait le catch as catch can. Ça veut dire attrape-moi.
Attrape comme tu peux.
Attrape comme tu peux.
Ouais, il y avait un film qui s'appelait Catch Me If You Can, c'est ça?
Ça va être Tom Hanks, mais j'imagine que le terme s'est rendu en France où vous utilisez beaucoup d'anglicisme de cette nature.
Femme de lutte à partir de quel âge?
Oula, honnêtement, je pourrais pas te dire.
Quelle est l'image qui t'a frappé à tel point que tu t'es dit je veux être un lutteur professionnel?
Écoute, c'est quand j'étais vraiment, vraiment, vraiment petit. C'était un match qui va paraître idiot, c'était un match Hulk Hogan contre Ric Flair, Et en voyant Hogan sur le ring, c'était la toute première fois que je voyais ça à la télé. Alors moi, j'étais petit, j'étais un petit gamin, je voyais ça. Je savais même pas ce que j'étais en train de regarder. C'est après, je suis allé voir, il y avait pas Internet encore à l'époque en France. S'il y avait, mais c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Je suis descendu, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis descendu chez le marchand de journaux, j'ai acheté un programme pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai vu. Ah, c'est du catch. Je connaissais le mot, je connaissais le principe, mais j'en avais jamais vu de ma vie. Oui.
Non, vas-y, parce qu'il veut, pour... Regarde, ça, c'est Pat Laprade. Quand il n'y a pas l'attention pendant deux minutes, là, c'est... Ah, je sais!
C'est oui, tellement...
C'est moi, là!
C'est tellement... C'est pas vrai, parce qu'il il va poser sa question. Que tu venais de dire, mais continue à parler, vas-y.
Et pour te dire, à l'époque, c'était diffusé seulement trois quarts d'heure par semaine.
Okay.
C'était le samedi matin à 6h45 du matin. Fallait être motivé. Et tous les samedis matins, je mettais mon réveil, je me levais, j'allais voir mes trois quarts d'heure de catch et c'était mes trois quarts d'heure. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, personne n'avait le droit de rentrer dans le salon, personne n'avait le droit de m'emmerder, c'était vraiment mon temps. C'était pour moi. Alors là, bah, bon, à l'époque, j'avais 7-8 ans, quoi. J'ai pas pu commencer à montrer tout
ça. Si t'as 25 ans, Patrick, ça veut dire Hulk Hogan, Ric Flair, on remonte dans le temps de la WCW.
Ben, c'était d'ailleurs ma question. Est-ce que c'était la WWF ou la WCW?
C'était la WCW.
OK. OK, dans la deuxième carrière à Hulk Hogan.
Exactement.
Ensuite, tu vieillis, et puis là, tu prends tes premiers cours de catch. T'as quel âge?
Alors j'ai fait mon tout premier cours de catch quand j'avais 16 ans. En fait, je m'étais renseigné déjà pour m'entraîner. On m'avait dit avant 16 ans, c'est même pas la peine, t'y vas pas. Ils m'ont dit essaie autre chose, va vers un autre sport de combat. Je suis parti vers le judo et je me suis entraîné en judo pendant très longtemps, vraiment intensément, mais toujours avec cette optique.
Quelle ceinture judo?
Noire.
T'es ceinture noire en judo?
Quand j'ai commencé à m'entraîner au catch, j'étais ceinture, je venais d'avoir ma ceinture marron. Et le jour où j'ai fait mon tout premier combat, j'avais 17 ans, j'ai remporté ma ceinture noire peut-être deux semaines avant, quoi. Ça s'est vraiment fait en même temps.
Wow. Donc, personne ne peut t'essayer dans un bar parce que tu vas les renverser. C'est correct. Ensuite, ta première constatation quand tu fais ton premier combat de catch?
C'est dur.
Très dur.
C'est dur. La pression était vraiment énorme. Je me suis retrouvé dans un vestiaire de la Wrestling Stars, qui est l'une des plus grosses fédérations européennes. Et je me suis retrouvé vraiment avec des stars, avec des lutteurs qui faisaient 120, 130 kilos. Ça fait plus de 250 livres. Vraiment des gars qui avaient été champions d'Europe, des gars qui avaient été champions du monde. Puis moi, je suis tout petit, je fais 70 kilos, ça fait 150 livres. C'est mon premier match, je suis entouré de tous ces gens qui sont là depuis des dizaines d'années. Je me dis, oula, où est-ce que je suis, où est-ce que je débarque? Et je me souviendrai toujours, j'étais devant la porte, il y avait ma musique, il fallait que je rentre et j'étais en train de me dire, soit je rentre, soit je m'en vais en courant.
OK, puis t'as pris la bonne option, t'es allé vers le ring, t'as fait ton premier combat.
Ouais.
Et tu t'es sauvé.
Bah écoute, honnêtement, vu les gabarits qu'il y avait derrière, j'étais obligé d'aller faire le combat. Mais j'ai pris un tel plaisir. Honnêtement, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai pris mon pied comme un fou. Et même depuis, je crois pas avoir souvent repris mon pied autant en faisant quoi que ce soit d'autre. Quand j'étais sur ce ring, que j'avais tout le monde autour, je me suis dit non, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux. Je suis rentré dans les vestiaires, j'étais un autre homme.
Wow. Je veux savoir, ensuite de ça, tu continues ta carrière, tu vieillis, puis là, c'est quoi? Est-ce que tu suis la mode nord-américaine du catch? Est-ce que t'es plus un fan de la WCW, de la WWE, de la ECW, de la ROH? Comment tu connais tout ça avec Internet, j'imagine?
Tu connais ça avec Internet. Alors, à cette époque, c'était encore très, très peu développé en France. À cette époque, là, il y avait juste la WWE qui passait. La WCW existait déjà plus.
OK.
C'était encore diffusé sur des télés payantes.
Canal Plus, c'est ça?
Canal Plus, RTL9, enfin, toutes ces télés. Puis avec des horaires, vraiment des horaires bidons, quoi. C'est, par exemple, à 22h45, le jeudi soir. Vraiment des heures poubelles. Le catch était vraiment relégué, mais au troisième rang, et pourtant, il faisait toujours des audiences de fou.
Parce que tu vois, moi, je me rappelle, dans le temps de l'ancienne WCW, ça passait à 3h du matin, au poste anglais, je sais pas, moi, je viens de Chibougamau, je sais pas, tu sais pas c'est quoi, c'est sûr, mais nous, le corps qu'on avait, c'était CBS, Boston, je sais pas trop quoi, mais ça passait tout le temps à 3h du matin.
Je sais pas, nous autres à Montréal, on était...
Mais c'est dans le temps que c'était enregistré d'un studio MGM, ben, le ring, il tournait.
Ouais, nous, ben moi je me rappelle que c'était les samedis en fin d'après-midi, moi. Quand Hulk Hogan a changé de camp pour aller à la WCW en 1994, okay, ça jouait les samedis à 16h, je me rappelle
plus. Ouais, 6h05, on a fait la
mort. Ah, peut-être ouais, aussi, là, en fin d'après-midi, là, ou dans ces eaux-là.
Parce que c'était avant la télé satellite, là, on parle de corps dans le temps, que c'était pas québécois.
Ah non, mais c'était même avant les premiers Nitro qui étaient diffusés ouais, ici à TSN, les mardis soir.
Les mardis à 4h, puis les mardis à minuit,
ouais, c'est ça.
Jimmy, donc, les codes d'écoute sont fracassantes en France. Ça continue quand même à être des heures poubelles, comme tu dis. Quelle a été ta première chance pour venir en Amérique?
Oula, ma première chance de venir en Amérique, c'était il y a vraiment pas longtemps. C'était il y a 6 mois seulement. C'était au mois de juin. J'ai eu une opportunité pour venir montrer un petit peu mon talent au Canada, aux États-Unis. Moi, tu sais, je suis un mec d'opportunité. Je pars du principe, si je peux faire un truc, je le fais, je me lance. Après, je rentre dans le mur, je rentre pas dans le mur, c'est pas un problème. L'important, c'est de le faire, d'y aller.
Okay.
C'est comme ça que j'ai fait de la lutte. C'est comme ça que j'ai fait ma vie. Et c'est comme ça que tout le monde devrait faire sa vie. Dès que tu peux faire un truc, fais-le.
Comment t'as pris contact au Québec en premier lieu? Est-ce que t'as pris contact au Québec ou t'as pris du côté Canada anglais, c'est-à-dire l'Ontario?
J'ai commencé avec l'Ontario, en fait.
OK.
J'ai commencé avec l'Ontario avec une fédération qui s'appelle la Maximum Pro Wrestling.
OK.
Qui a de très, très, très bons lutteurs. Je suis parti m'entraîner là-bas en premier. Ensuite, ils m'ont invité à un show. Vraiment, j'ai été ravi du niveau... incroyable qu'ils ont, que ce soit au niveau body, que ce soit au niveau technique ou que ce soit au niveau gentillesse. C'est des gens adorables. Vraiment, j'ai eu énormément de plaisir à être avec eux.
Mm-hmm.
Après, j'ai pu partir au Québec et puis j'ai découvert un petit peu tous les lutteurs qu'il y avait ici. J'ai découvert Pat Gannett en premier. Un très, très, très bon lutteur, un mec vraiment super. Ensuite, un petit peu tout le monde. J'ai découvert Sylvain, je suis allé m'entraîner avec lui dans son école. J'ai découvert Drew Onyx, j'ai même découvert Patrice Maltais.
C'est vrai, t'as bien raison. Écoute, Jimmy, tu vas peser sur pause. On doit s'arrêter pour une pause publicitaire.
Yeah.
Au retour, on continue à faire ta petite biographie. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous allons avoir Pat Patterson en entrevue concernant le prochain Royal Rumble. Pat Patterson, qui est le créateur du Royal Rumble. Il reste également Smum Dax. Smum Dax qui va venir parler du prochain gala de la GEW. On s'excuse du retard. Quand c'est bon, écoutez, c'est ce que ça fait. Pat, t'as l'air de vouloir rajouter quelque chose?
Non, pas du tout. J'ai plusieurs questions à demander à Jimmy dans la deuxième partie de son entrevue tantôt.
Parfait, vous écoutez le TOW Radio Show sur les ondes du 1570 AM, également le 1570.ca.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
L'épilation définitive à la lumière pulsée de Palomar d'Oasis Technologies vous permet enfin de dire adieu aux poils. Chez Oasis Technologies, une variété d'options s'offre à vous, hommes ou femmes. Tout type de poils, tout type de peau et sur toutes les régions du corps, utilisez l'épilation à la lumière pulsée de façon sécuritaire et sans douleur. Informez-vous sur nos spéciaux d'après-fête et vous pourriez recevoir votre premier traitement des aisselles gratuitement. Oasis Technologies, c'est plus de 50 points de service au Québec. 1-877-EPILATION, 1-877-374-5284. Ou visitez finilespoils.ca.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean-Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concept unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé.
le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Bonjour, ici Richter Oz McGott, le meilleur gérant de la lutte au Québec, manager de Bugs Belmore, William Brady et Dos Moses. Vous écoutez Top of the World Radio, Ain't No Rest for the Wicked.
My hair slicked back, I'm coming to your town. And my pink Cadillac, I'm just a honky-tonk man.
Savais-tu que c'était une reprise, cette chanson-là?
Non, écoute, j'aurais pas pu te dire, non. Je croyais que c'était une invention Jimmy Hart.
Écoute bien ça.
Ok, ça a été adapté probablement justement à Jimmy Hart qui a été DJ longtemps à Memphis. Donc
ça date des années 50.
Ah, écoute, j'en doute pas. Cette tune-là, Patrice, t'as sûrement fait, si écoute l'émission, Le Bonheur de Eric Salotolo, communément appelé Monsieur Tolo, qui est le plus grand fan qu'il existe de Honky Tonk Man.
C'est Roger, l'animateur du country ici. L'autre fois, Lufisto, elle arrive. Et puis, pas longtemps après, Thomas de Pape Dubois, on se met à jaser. On parle de lutte. C'est ça qu'il joue à la radio. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Puis ça date des années 50. Yeah! Bon, OK, vous écoutez bien sûr la TOW Radio Show. On a un invité international en la présence de Jimmy Gavroche. Gavroche. Bordel de merde.
Gavroche, le personnage mythique de Paris.
C'est vrai. Donc, Patricia qui est allée faire du café, elle a fait un dégât. Donc, c'est vous qui faites des dégâts, hein, c'est ça. C'est interdit de boire dans les studios. Je me suis fait chicaner aujourd'hui, mais on le dira pas.
Là, tu vois, ton show, Patrice, notre show va être stéréotypé. Parce que la seule fille en studio, c'est elle qui va faire le café. C'est pas correct, ça.
Ah ouais, dans la cuisine. Non, c'est pas vrai.
On est des années 50 tout à l'heure. On est dedans, là.
Non, mais je veux dire, je suis allée chercher mon café parce qu'on se l'est fait offrir tantôt par Patrice.
Ouais, mais j'ai fait.
Mais il nous l'a pas servi.
J'ai fait bouillir l'eau. J'ai fait ma job. Sylvain Grenier sera là dans 5 minutes. Donc, écoute, vas-y, on avait des questions pour toi.
Oui, écoute, Jimmy, je pense que moi, ça m'intéresse. Je suis vraiment curieux. Puis il y a plusieurs auditeurs là, sur Facebook qui sont aussi curieux. On dit souvent que la scène de lutte indépendante au Québec, ce sont des plus petits gars, des poids légers qui font 160 livres, qui sont plus petits, des foules des fois qui n'attirent que des 150, 180 personnes. À 200 personnes, c'est une grosse foule. C'est quoi la réalité de la scène indépendante du catch en France? Est-ce que c'est semblable ou complètement autre chose?
Alors, je vais te répondre, t'as deux réalités. T'as bien sûr plusieurs petites fédérations qui sont comme ça, comme tu trouves partout dans le monde. Partout, tu vas trouver une petite fédé avec des petits lutteurs. Moi, je vais te parler de là où je suis. Ça s'appelle la Wrestling Stars. C'est la plus grosse fédération européenne. On fait environ une centaine de shows dans l'année, partout en France. C'est des shows qui vont aller de 500 personnes, qui vont monter jusqu'à 4000 personnes. On est même monté à 10 000 une fois. C'était il y a 2 ans, à côté de Paris. Donc, bien sûr, quand t'as genre de show, t'es obligé d'avoir des lutteurs qui ont le gabarit qui vont avec. Ce qui veut dire que t'as personne qui fait moins de 90 kilos. 90 kilos, ça fait près de 200 livres, quoi.
Mais est-ce que ce sont des lutteurs locaux ou il y a aussi des vedettes américaines ou des vedettes qui ont été à la WWE, à la TNA, à la WCW? Comment est composé l'alignement?
Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup, on a très rarement d'anciens lutteurs des grandes fédérations américaines qui viennent en Europe. Le dernier qui est venu chez nous, c'était il y a 3 ans, c'était PCO. D'ailleurs, c'était un super moment. On a beaucoup rigolé avec lui. Non, on a nos lutteurs.
Est-ce que PCO a une reconnaissance internationale à ce point que les Français l'ont idolâtré lorsqu'il est allé en France?
Bah, malheureusement, il s'en souvenait plus trop.
OK.
que, comme je te dis, parce que la VVE en France est connue depuis 4 ans seulement.
Ah.
Depuis 4 ans, elle est arrivée sur les ondes gratuites. Ça fait depuis 4 ans qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment connue. Mais tout ce qui s'est passé avant, les gens savent pas. Malheureusement, si les fans savent, mais les fans sont vraiment pas beaucoup.
Ben en fait, j'imagine que la nouvelle génération de fans, justement, ne connaît peut-être pas ce qui s'est passé avant, mais il y a peut-être une génération qui se déplace plus dans les salles de lutte, mais qui connaissent, j'imagine, les Hulk Hogan et qui ont connu les années 80-90.
Bien sûr.
Okay. Et est-ce que avec ces stars locales là, d'abord, donc vous attirez des foules considérables avec des stars locales.
Alors
c'est quoi le moyen de publiciser ces stars là? Est-ce que vous êtes à la télévision?
Alors déjà, je vais dire, bon, star local, c'est pas vraiment local, parce que quand on fait un show, on a une quinzaine de lutteurs à peu près. Les lutteurs viennent de toute l'Europe.
Ok.
Hein, quand on fait un show, quasiment tout le monde vient en avion au show. Hein. C'est,
ok.
On prend vraiment pas n'importe qui. Quand tu fais des shows comme ça, t'as pas le droit de prendre n'importe qui. Après, niveau publicitaire, on n'a pas d'émission de télé spécialement, on n'a pas d'émission de radio. On travaille vraiment en local. Quand on fait un show, on a un show, on va faire la pub autour, à 15 km autour, on va prévenir la presse, on va coller des affiches, et puis ça va suffire.
Et ça, avec des... Mais quand on dit, bon, des lutteurs qui viennent de partout d'Europe, encore là, ce ne sont pas des noms que les gens ont vus à la télévision, ce ne sont pas des gens que... des lutteurs qui ont une renommée internationale, comme les lutteurs de la WWE ou de la TNA. Donc, ça reste quand même... Vous arrivez à attirer des foules basées sur un principe de marketing et de publicité.
Bien sûr.
Mais c'est vraiment...
Bien sûr, mais comme je te disais, de toute façon, des anciens lutteurs de la WWE ou de tout ça, les gens les connaissent même pas. Donc ça sert à rien de les faire venir. Tu vas faire venir, je sais pas moi. Tiens, tu vas faire venir Ric Flair. Personne en France connaît Ric Flair. Ça sert à rien.
Mais ça va te ramener personne. C'est très intéressant ça parce que ça veut dire deux choses. Soit que votre marketing et votre publicité, elle est extraordinaire, ou le marché pour le catch en France est extraordinaire.
Alors le marché est pas spécialement extraordinaire, c'est qu'on est vraiment une équipe. C'est une fédération qui existe depuis 1933, qui tourne depuis 1933, donc ça marche vraiment très très bien. On est une équipe d'à peu près 5-6 personnes qui travaillons dessus à l'année. C'est notre travail, c'est notre vrai travail d'organiser des shows. On fait pas autre chose à côté, on fait ça sans arrêt, toute la journée, toute la semaine. Et le week-end, on va lutter.
Donc c'était d'ailleurs, ben, soit tu m'amènes vers une autre question. Toi, tu vis de la lutte présentement.
Ouais.
Entre tes combats et la promotion, les deux mis ensemble, tu vis carrément de la lutte.
Les deux mis ensemble, ça me permet, ouais.
Ah, mais c'est
je vais pas dire que je suis milliardaire, mais je vis bien.
Combien il y a de promotions de lutte en France?
Alors écoute, je vais te répondre sincèrement. L'autre jour, on a essayé de les compter. On en a recensé presque une centaine.
Une centaine?
Mais bon, sur une centaine, je t'explique. T'as la Wrestling Stars et autour, t'as plein de petites fédérations qui vont faire entre 1 et 5 shows dans l'année. Et en additionnant tous leurs shows, ils arrivent même pas au nombre de spectateurs qu'on a un seul de nos shows.
Et OK, donc il n'y a pas une autre promotion de lutte.
C'est comme au Québec.
Ben, différemment, il n'y a pas une autre promotion de lutte en France, à part la Wrestling Stars, qui a des galas mensuels à chaque mois ou à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Il y a la Wrestling Stars et il y a les autres qui font quelques galas éparpillés durant une année, c'est ça?
C'est ça. Alors par contre, nous, on n'a pas des trucs mensuels ou toutes les deux semaines. Hein. Nous, comme je t'ai dit, on a une centaine de shows dans l'année.
Mm-hmm.
Donc on lutte vraiment tous les week-ends, tous les vendredis, tous les samedis, certains dimanches, même des fois dans la semaine. On n'a jamais un show au même endroit. C'est-à-dire qu'on se déplace à chaque fois.
Okay.
On va aller dans une ville, on ne va pas y retourner avant un an.
Ok. Ça, c'est intéressant. Ça se faisait même avant aussi, mais est-ce qu'il y a une différence le week-end? Est-ce que ça attire plus que la semaine ou c'est pas mal?
Ouais, le week-end attire. Alors la semaine, en fait, ce qu'on fait, c'est on a une trentaine de shows qui s'appellent des zéniths, où là, on travaille pour un producteur qui fait ça. Les zéniths, c'est les grandes salles. C'est les salles qui font 3-4 000 personnes. Donc là, des fois, ouais, tu fais des shows dans la semaine, comme ils font à la WWE, ils font ça le lundi, mardi. C'est exactement la même chose.
Parce que ici, écoute, Patrice, t'es sur la scène depuis assez longtemps, des shows la semaine.
Deux ans.
Ici, ouais. ça serait se tirer une balle dans le pied, ça serait un suicide de promotion de faire ça. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment intéressant. J'espère que les promoteurs qui sont à l'écoute prennent des notes parce que je crois que Si tu me dis en plus que le marché n'est pas si spectaculaire que ça, il y a une façon dans laquelle vous faites votre marketing et votre publicité qui serait intéressante d'analyser, parce que au Québec, on est loin de cette réalité-là, malheureusement.
Mais toi, Jimmy, là, côté végétarien, tu te positionnes comment en France? Est-ce que tu es une personnalité connue dans le catch local ou européen?
Non, moi, je suis connu au niveau européen. Moi, je lutte un petit peu partout en Europe, bon, principalement en France. Parce que bon, c'est mon pays. En Angleterre, t'as deux pays en France qui marchent très bien, c'est la France et l'Angleterre.
T'as deux pays en France ou deux pays en Europe?
En Europe, excuse-moi.
Il y a deux pays. Non, parce qu'il y a plusieurs régions en France. On parle de Bordeaux Catch. Je salue d'ailleurs Frédéric Just, Execute Sweet, Little Stormy et puis Marc Bandidas, qui sont les seuls autres catcheurs que je connais personnellement, mis à part toi. Et puis bien souvent, on pense que tout le monde se connaît, mais c'est carrément faux.
Ah, pas du tout. C'est complètement faux. Comme tu me dis, là, tu me donnes plein de noms.
Mm-hmm. Bon. Que tu les connais pas.
Que je connais pas. Bon, je connais Little Stormy et Marco Bandidas parce qu'on en a parlé tous les deux, parce qu'ils m'ont contacté eux-mêmes. Mm-hmm. Mais sinon, non, je les connais pas. C'est des gens que je vois pas du tout.
Ok.
Après, où est-ce que je me place, moi? Bon, en Europe, parce que je lutte un peu partout en Europe. Après, en France, je suis bien connu dans le monde du catch français. J'ai été 3 fois champion de France. Mm-hmm. Je passe très souvent. On dit de moi en fait que je suis le catcheur le plus médiatisé d'Europe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une émission télé importante, à chaque fois qu'il y a un journal, par exemple, il y a une série qui vient de sortir. C'est Disney qui sort cette série en France avec un catcheur. C'est tout de suite moi qu'on prend. Donc c'est vrai que bon, j'ai ce côté un petit peu de notoriété. Honnêtement, j'ai même pas cherché. C'est tout simplement parce qu'ils ont aimé mon personnage, ils ont aimé ma personnalité, ils ont aimé ma tête. Et
il y a une photo qui est émise par Bertrand Hébert sur notre page de Facebook, hein, Patricia. Je sais pas si tu peux la montrer à Jimmy en tournant l'écran. C'est drôle, t'es en miniature. Tu peux la tourner. Il y a un masque de...